Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Copelia Ménardi et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Alexandre Dong. Réalisation signée Daniel Finot. Je lis sur le Twitter de la dispute FC que Arnaud Laporte est entouré de Corinne Rondeau, Anaëlle Pigeat et Florian Guettet pour une dispute consacrée aux arts plastiques avec Sheila X, Ligne de Vie au Centre Pompidou, Corot le peintre et ses modèles au Musée Marmottan et Cécile Beau, la région vaporeuse à la Maison des Arts de Malakoff. Je crois que ça correspond avec ce que j'avais prévu, donc ça doit être juste. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film Wajib, l'invitation au mariage, un film d'Anne-Marie Jassir qui est sorti aujourd'hui en salle. Nous ouvrons en effet cette dispute en nous intéressant à Sheila X, artiste appréciée par une certaine partie du monde de l'art, très peu connue encore du grand public. Cette grande rétrospective au Centre Pompidou pourra peut-être rendre justice à cette grande dame de 84 ans qui a choisi de vivre à Paris depuis plus de 50 ans. Elle joue avec la laine, le coton, la soie, d'autres matériaux encore, les pliants, les tressants, les pliants, les empilants, en tout cas en s'inspirant aussi bien du modernisme que des motifs extra-occidentaux. Elle est ouverte comme ses œuvres, cette exposition, puisqu'elle a choisi l'artiste de laisser les dégager les grandes baies vitrées de la galerie d'exposition qui donne sur la rue. Le commissariat de l'exposition est assuré par Michel Gauthier, assisté de Mathilde Marchand. La X au Centre Pompidou. Il se demande qui va commencer. Je laisse le suspense tout à fait entier sur cette musique un peu mystérieuse et c'est Florian Guettet qui va commencer à nous parler de Sheila X. Vous avez dit quoi ?
Non, rien. Non,
alors,
non, j'étais très content en plus de découvrir cette rétrospective de Sheila X, parce que j'ai vu toujours des pièces plus ou moins éparpillées.
Oui, on en voit souvent dans des expositions collectives.
Exactement,
hein, de par le monde.
J'ai jamais vu une exposition personnelle, donc j'étais assez curieux de ça, et on se rend vite compte en fait dans cet espace effectivement très très ouvert, tout en volume et tout en tissu évidemment, que il y a une forme de diversité, mais surtout d'attention à la matière textile, qui devient non pas le support à la couleur, mais qui devient le matériau de la couleur même. Et ça, c'est assez surprenant dans notre première approche en fait qu'on peut avoir de cette exposition. Alors c'est évidemment quelqu'un d'assez multiple, d'assez pluriel, qui a beaucoup d'influence, même si l'œuvre a l'air comme ça un peu monomaniaque presque autour de ce matériau-là, même s'il se décline en différentes formes. Il y a du lin, la laine, la soie, du coton, du nylon, du raffia, etc. Et puis c'est une concrétion de plusieurs influences, à la fois évidemment son des arts décoratifs, puisqu'elle a été l'élève de Joseph Albers du Bauhaus à l'université de Yale, et puis elle a notamment été designeuse hein, pour Knoll, pour Saarinen, pour le Commonwealth Trust, donc quelqu'un qui est toujours un peu à la limite entre l'art plastique et puis les arts décoratifs. Alors, ce qu'on trouve en fait dans cette exposition rend donc évidemment hommage à cette forme de picturalité de ces sculptures. On la rapproche assez vite de l'expressionnisme abstrait puisque ça fait vraiment partie de ses influences premières, mais aussi du color field, hein, de ces aplats comme ça de couleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas un choix rétrospectif, c'est-à-dire qu'on ne part pas vraiment d'une chronologie bien assise, mais on a une diversité quand même de points de vue qui nous montre quand même les premières œuvres des minimes, ce qu'on appelle les minimes dans les années 50, qui sont des toutes petites œuvres qui tranchent véritablement avec la monumentalité des œuvres qu'on lui connaît plus tôt et qui sont vraiment intéressantes parce que ce sont des matrices en fait de tout ce que va devenir son vocabulaire formel par la suite. Et il y a déjà une grande diversité, alors de points, de croix, de tissage, de matériaux aussi, puisqu'on a effectivement des textiles très différents, mais aussi du plastique, du cuivre, toute une sorte d'expérimentation comme ça qu'elle mène, j'ai envie de dire, au long cours avant de se mettre vraiment à ces grandes sculptures molles. Alors c'est évidemment une coloriste, hein, donc il faut évidemment prendre le temps aussi de se laisser imprégner par ces couleurs-là. Et il y a quelque chose dans l'ordre de la fragilité finalement de ce matériau-là qui est le tissu, qui devient très puissant par accumulation, par tressage ou par agglomération, on va dire. Mais la vibration de la couleur est par contre très sensible, très ténue, très nuancée, très légère. Et il y a vraiment ce sort de contrepoint entre un œil très très fin sur ces nuances de couleur et en même temps un œil un peu plus global, on va dire, un peu plus syncrétique pour tout ce qui est des œuvres en grand format, on va dire. Moi, il m'a semblé que c'était, en tout cas l'expérience que j'avais faite, c'était que ça sollicitait chez moi un peu moins la vue que le toucher, même si on n'a pas le droit de le toucher, mais c'était intéressant de faire cette expérience-là, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à la peinture, qui peut être son inspiration, on n'est pas dans une distance comme ça, avec une forme d'extériorité à soi de l'œuvre. On a vraiment envie d'y plonger, voire même de le caresser. Alors, évidemment, on peut pas le faire, hein, mais on a juste envie de le faire. Mais ça renoue avec une tradition de ce qu'on appelle le regard haptique, qui était dont Diderot a parlé, Rousseau, dont Herder a parlé aussi, ou Hegel, et ça dit quelque chose de la différence aussi entre la sculpture et la peinture, c'est-à-dire que là où la vision optique a tendance à créer des distances et une forme de monde imagé, on va dire, le regard haptique nous oblige de suite à sentir des formes, à sentir du volume, à sentir forcément à se placer dans un univers en 3D. Donc j'ai trouvé ça, cette proximité-là vraiment intéressante, d'autant que ça va avec une forme aussi de caresse. J'ai trouvé que c'était Enfin, si je devais caractériser mon regard haptique, ce serait plutôt de l'ordre de la caresse, c'est-à-dire quelque chose d'assez sensible et précautionneux, et on avance comme ça à petits pas finalement dans cette exposition.
On va suivre les petits pas de Corinne Rondeau à présent dans le Centre Pompidou pour parler de chez Laïx.
Je partage ce que vient de dire mon camarade. Moi, j'ai été un peu troublée parce que je ne savais pas à quelle distance je devais être des choses. Et c'est vrai que le rapport au toucher est impressionnant, enfin, est très fort. D'ailleurs, moi, je suis allée dans la sentinelle de Safran, c'est ça. Je suis quand même allée chercher à toucher cette chose-là. Ce sont des très grosses boules de laine. Je crois bien que c'est de la laine et qui sont entassées comme des pointes de couleur, on va dire, dans un coin de la salle, puisque c'est sur le plateau extérieur, vous l'avez dit, c'est ouvert. Et moi, j'ai eu aussi un petit problème sur la lumière, que j'ai trouvé malheureusement toujours un peu la même. Et donc, comme effectivement l'a signalé Florian, la couleur a un rapport, on doit être... Moi, j'avais presque le regret de ne pas avoir de loupe. D'abord parce que le c'est rien. Un fil, c'est rien. Un fil, et un fil tout seul, c'est rien. Et donc, il faut imaginer ce que ça représente de faire des œuvres monumentales avec du fil. Même si c'est un gros, c'est quand même qu'un fil. Et quand c'est du fil très fin, et je dois dire qu'il y a une pièce qui s'intitule East, West, North, South, et qui sont contre justement les vitres de la salle. Et là, j'avais un contre-jour qui jouait contre cette pièce pour moi. Parce que là, se jouent justement des vibrations de couleurs qui sont très ténues, mais vraiment, c'est-à-dire que pour la voir et bien la voir, je me suis demandé où est-ce qu'il fallait la voir, d'où il fallait la voir. Donc je me suis mis très loin et là, quelque chose résonnait davantage. Mais en même temps, je me trouvais trop loin de la pièce. Une des pièces qui justement renvoie à la dimension picturale du travail et de ces références que vous avez citées avec Joseph Albers, donc l'interaction des couleurs. Et donc moi j'ai eu ce côté, bon, j'ai trouvé qu'il y avait trop de colonnes par exemple où la question de la tension avec l'espace était pas prenant pour moi par exemple. Et ça, je crois que c'est juste un rapport de couleur. Je comprends bien qu'il faut pas mettre de la couleur pour submerger, mais en fait la question aussi de l'interaction des couleurs, c'est voir comment la couleur même du fil joue avec la couleur de l'autre, parce qu'elle ne met pas des fils de couleurs de manière aléatoire
du tout. Enfin,
donc évidemment dans cette pensée de l'interaction des couleurs, c'est vrai que moi j'ai eu un certain regret au niveau de l'éclairage de l'exposition. Et je trouve que par ailleurs, vous parliez de mou ou molle, vous parlez sculpture
mou,
molle.
Et
j'ai entendu aussi le mot de. Pendant il y avait des gens, enfin, ça tombait, des cascades. Et moi j'ai une perception contraire. C'est-à-dire que ces colonnes, pour moi, avaient vraiment une puissance en montée. C'est-à-dire, elle s'érigeait, ces colonnes de laine s'érigeaient. Et c'est là que je trouve la puissance du travail sculptural de la couleur avec ces fils. C'est-à-dire, comment on fait tenir des fils ensemble, mais comment on les fait tenir vers le haut, même si j'ai bien compris que c'était suspendu par des fils. Mais la perception que j'en ai, c'est pas quelque chose qui tombe, c'est au contraire quelque chose qui n'arrête pas d'avoir une présence et une force en montée. Il y a quelque chose de presque baroque. Il y a une rencontre du haut et du bas, on pourrait dire. Et ça joue notamment, puisqu'il y a certaines pièces où elle va serrer avec un fil de couleur très fort d'autres fils qui sont plus épais, qui ont un rapport beaucoup plus traditionnel, on va dire, à des formes plus traditionnelles. Et là, on voit bien qu'il y a des rapports de couleurs qui se forment, qui sont très très beaux. Et la manière dont elle a de serrer sur des zones qui sont assez admirables par rapport à d'autres, puisqu'en fait, ça se joue sur des petites hauteurs et des intervalles aussi de couleurs de hauteur. Alors bon, ça c'est... Et qui font des panneaux comme ça, comme des formes de tableaux, là, pour le coup, qui sont suspendus. Alors, et puis après, sur la question de l'exposition, donc il y a ces minimes qui sont assez beaux, parce que là, on peut voir, je dirais, là, pour moi, c'est vraiment l'œuvre du deux en un. Vous avez parlé, Florian, du côté haptique, mais indépendamment de ça, je dirais, quand on entend tissu ou fil, ou tissage et tressage, bon, la forme la plus ancestrale qui réunit l'humanité, ça commence par le tressage. Et le tissage, qui est la forme la beaucoup plus raffinée du tressage. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le rapport matériel, il y a une matériologie, mais c'est aussi le rapport au corps. Donc, quand on entend tissu, on entend corps. Et en même temps, il y a la dimension optique qui vient tout de suite. Donc, elle vient coupler, c'est le donnant en eux, hein, la couleur et la matière. Et ça, je trouve que c'est admirable parce qu'elle le fait avec un fil. Et quand on sait qu'elle a un rapport à la peinture par le biais du Baos, notamment, et que je me dis, en fait, c'est comme si elle avait pensé le tableau qui est un support de toile, c'est du tissu, la toile, hein, et qu'elle avait tiré le fil de ce support qui est très vieux, hein, depuis la Renaissance italienne, elle avait tiré ce fil de lin, et puis en se disant, ben voilà, ce fil-là, avec, je veux dire, les manières de le couper, de le tresser, avec toutes les capacités que j'ai de combiner les croisements du fil, mais en même temps de recombiner par de la couleur, ben là, je trouve que Et puis c'est surtout que c'est sans, un fil, c'est sans bord. C'est-à-dire le cadre d'un tableau, il y a du bord. Mmh. Et vous peignez sur un bord. Alors indépendamment du color field ou toutes ces catégories picturales qu'on va annoncer dans la période où elle le fait, si je le replace sur son rapport extra-occidental qui est le tressage ou le tissage, il y a l'idée de qu'est-ce que je fais d'un fil avec un autre fil. Et ça, je trouve que c'est admirable et qu'on a mis 50, 60 ans à avoir sous l'œil, là, parce qu'elle nous l'a mis depuis 60 ans sous l'œil, en disant, j'ai trouvé l'infini avec un fil, et je l'ai juste tiré d'un tableau où il y a la peinture dessus, sauf que ce fil, il n'est plus sur un cadre, la peinture, elle est sur un fil. Et voilà. Et je trouve qu'il y a une capacité à penser, une manière de penser à l'infini, les combinaisons. Et les minimes qui sont présentées ici sont cette expérimentation d'une reconfiguration et de déconfigurer aussi sans arrêt, tisser et détisser en permanence.
Quelle envolée, Corinne Rondeau. Anaël Pijard, chez Laïc, c'est vous.
Je voulais revenir sur le côté un peu métaphorique, tout à fait métaphorique de ce travail, de l'idée du tissage même et du mariage entre l'art et la vie qui est très présent dans l'œuvre de chez Laïc, qui se manifeste d'une très belle manière dans l'exposition. Alors moi j'étais très sensible à cet éclairage assez bas et effectivement assez unifiant de l'exposition, ce grand plateau très ouvert, mais qui je trouve fait extrêmement bien ressortir les œuvres et ressortir aussi l'ouverture de cet espace d'exposition qui est au rez-de-chaussée du Centre Pompidou sur la ville, puisqu'il y a un certain nombre d'œuvres qui sont appuyées sur les fenêtres, dont la Sentinelle de Safran dont vous parliez, Corinne, et effectivement dans laquelle on a envie plus que de toucher, même de se laisser glisser. Et il y a effectivement quelque chose de très séduisant, de très attirant là-dedans. Et puis dans une autre série d'œuvres qui s'appelle en anglais Nord-Sud-Est-Ouest, qui sont des sortes de tableaux, là, de peintures avec des sortes de châssis autour desquels sont entourés des fils, littéralement, et qui font comme des tableaux qui sont appuyés contre les vitres. Je voulais aussi revenir sur le parcours de cette femme, qui est quand même très intéressant, parce que elle fait partie d'un ensemble d'artistes qui sont redécouverts aujourd'hui, femmes d'un certain âge, et que dont le marché de l'art s'est emparé récemment. Ouais. C'est vrai. On a vu beaucoup son travail dans des expositions de groupe, au Palais de Tokyo, dans le Pipe, qui était cet espace de conférences et de performances à l'étage inférieur du Palais de Tokyo. Elle a actuellement une installation dans le grand hall du Musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais on peut constater quand même, enfin parallèlement à cet aspect de redécouverte, que depuis le milieu des années 60, elle a mené un travail constant et elle a eu une activité constante, c'est-à-dire qu'elle n'a attendu personne en fait. Et elle n'a attendu,
elle a redécouverte,
elle a travaillé. Il y a là-dedans quelque chose d'assez remarquable. En 65, Alfred Barr fait rentrer son prayer, Moroccan prayer rug, son tapis marocain de prière au MoMA. En 88, c'est très intéressant, Michel Ragon et Marcelin Plenet parlent d'elle dans leur ouvrage sur l'art abstrait et elle continue. En 72, elle fait partie de la grande exposition au Grand Palais, 12 ans d'art contemporain en France. Et parallèlement, elle continue à faire des objets de design, enfin des travaux de design pour IBM à Paris, pour Air France, pour toutes sortes de firmes. Et elle maintient comme ça dans son travail un équilibre très précis entre d'une part une dimension artistique et profondément artistique de son travail et d'autre part une dimension tout à fait utilitaire aussi de certains objets. Et d'ailleurs vous parliez
de l'envie. C'était un choix, Naël, quand vous avez creusé la biographie, ou est-ce que c'est aussi le fait que pour se nourrir et payer son loyer, il faut aussi peut-être parfois utiliser son savoir-faire pour...
Moi je pense...
Non, c'est une question que je me pose.
Je pense que c'est une forme d'agilité en fait. Je trouve que...
Effectivement, elle était quand même relativement ignorée du marché. pendant très longtemps, donc il lui a bien fallu vivre pour pouvoir poursuivre son travail. Mais je ne sais pas si c'est une volonté chez elle ou pas.
Corinne Rondeau, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a rencontré qui a eu la chance de rencontrer des gens dans des galeries, mais aussi Baragan, par exemple, l'architecture. Mais même en France, elle disait en fait qu'elle n'a contacté personne, on l'appelait.
Donc parce que c'est le rapport, il y a quelque chose de très original dans son parcours
qui l'a conduit aussi à.
Oui, il y a quelque chose de très original aussi dans son parcours, dans les voyages, les nombreux voyages qu'elle a fait au Mexique très tôt, dans les pas de Annie-Joseph Albers. Elle a été en Inde, elle a été au Maroc. Et quand on, il y a une série de films dans l'exposition qui sont très intéressants et qui la montrent vraiment comme une chef d'atelier. On la voit dans son atelier à Paris, cour de Rohan, entourée d'assistantes, et elle mène les travaux comme ça. Je pense que c'est une supposition aussi, mais je pense que ces deux aspects de son travail font partie de l'intégrité de sa démarche. Je trouve qu'elle a, il y a dans son travail quelque chose qui est une agilité de chat entre tous ces domaines. Ça se manifeste aussi dans la manière qu'elle a de montrer des œuvres qui ne sont jamais réinstallées de la même manière. Elle joue au Centre Pompidou avec l'architecture en faisant tomber ses colonnes des carreaux qui sont au plafond. Elle empile, elle désempile, elle réempile, elle intègre des objets et finalement elle jongle avec tout ça d'une manière extrêmement harmonieuse et fantaisiste.
Peut-être avant de poursuivre un tout petit peu, je reviens vers vous Florian, quelques commentaire. Alors Nicolas Ross qui parle d'exalter la matière, de déployer la couleur dans l'espace, de laisser une œuvre vivre sous des formes différentes. Et notre consoeur Magali de Sauvage qui avait écrit également sur Twitter en parlant d'une expo riche en métaphores de matière mais un peu en dessous de la beauté de l'œuvre. Et ce qui renvoie un peu différemment à ce que j'ai pu ressentir. Moi j'ai eu un peu de mal avec la dimension justement rétrospective, enfin exposition chez l'AX tout d'un bloc. Et je crois que j'ai eu plus de plaisir au fil des années à voir des œuvres de ci, de là dans des expos de groupe. Je trouve que c'est compliqué de maintenir une attention tout au long de ce parcours qui sollicite quand même pas mal l'essence, mais qui pour moi, ça faisait écran finalement au bout d'un moment toutes ces œuvres. Florian Guettet.
Oui, je crois que l'ambition affichée, c'est de se laisser absorber comme le coton se laisse absorber par un.
Enfin, c'est très bien que le Centre Pompidou fasse une rétrospective chez l'AX,
oui,
en expo.
Ouais, moi je vais revenir sur, reprendre un peu là où s'est arrêté Vanel, mais sur cette thématique des arts décoratifs et des arts plastiques et comment. Effectivement, moi je trouve que ce recouvrement, ce mélange-là, cette rencontre-là, elle n'arrive pas à recouvrir la thématique de l'art et la vie. Moi j'ai l'impression que c'est un peu une pétition de principe et que dans cette exposition, je ne l'ai pas vraiment retrouvée. Alors c'est sûr qu'on a effectivement des références naturalistes très très nettes à la pêche, aux cascades, aux sources, aux lianes, aux cheveux, etc. Mais dans l'expérience, moi, que j'ai de cette exposition, je me suis pas retrouvé du tout dans la jungle. En tout cas, j'ai un peu du mal à me retrouver dans une forme comme ça, un peu organique et végétale. Je me suis retrouvé vraiment dans une maison. C'est-à-dire que quand on rentre, en fait, moi, les cascades sont devenues des colonnes. Il y a un espace clos où on voit un reportage sur sa manière de faire, etc., qui devient une sorte de chambre. Les baies vitrées deviennent des vitres. Il y a un tapis de prière qui est accroché au mur, qui a un grand format et qui devient une porte. Il y a une pièce à plat qui s'appelle pêcher quelque chose.
Au
fil de la rivière ou quelque chose.
J'ai plus de nombre, enfin bon, qui devient une forme de lit. Et puis, donc vraiment, on a toujours cette tension-là entre du naturel qui est d'un coup recouvert par du domestique. Et on le voit très bien aussi dans un autre ensemble d'objets qui est assez signature chez elle, qui est Palitos con Bolas, qui sont des assemblages de galérons recouverts de plein de fils, de lin, de nylon, de coton, de soie, etc. Et des tiges de bambou qui sont recouverts de la même manière, qui sont des objets naturels, qui deviennent des objets rituels, symbolique mais presque utilitaire.
Annel Pigeat, dernier mot, très rapidement.
Je trouve que ce sont les 120 minimes qui éclairent toute l'exposition et qui résolvent toutes les directions de son travail ensemble. Ce sont des petits travaux qu'elle mène quotidiennement depuis le milieu des années 50 sur un métier à tisser, objet d'artisanat s'il en est, et qui révèlent une fantaisie absolument folle avec des plumes, des queues de cerises, des clés, des élastiques, des épines de porc-épic, des morceaux de magazine, des coquillages, et qui traduisent la multidimensionnalité de son travail.
Chez l'AX, Ligne de vie, c'est le titre de l'exposition qu'on peut découvrir jusqu'au 30 avril au Centre Pompidou, le centre qui a édité un catalogue pour l'occasion, dirigé par Michel Gauthier. Et puis, pour en savoir plus sur Chez l'AX, vous pourrez aussi l'écouter demain soir sur France Culture à 21h dans l'émission de Marie Richeux par les temps qui courent. Et à suivre dans la dispute, Corot et Cécile Beau.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques avec Camille Corot pour une exposition centrée sur le travail de portrait de l'artiste pour tenter de répondre à cette question. Corot est-il un classique ou un moderne point d'interrogation. Une soixantaine d'œuvres qui viennent du monde entier ont été réunies ici dans un commissariat de Sébastien Allard. L'exposition étant organisée avec le musée du Louvre et puis dans une scénographie d'Anne Gradatour. Et cette fois, c'est Corinne Rondeau que l'on suit dans le musée Marmottan-Monet pour découvrir cette exposition Corot, le peintre et ses modèles, Corinne.
Alors classique ou moderne? Les deux à la fois, en général.
Les deux, mon capitaine, c'est pas ça?
Ouais, mais bon, vous savez, aujourd'hui, ça sera tout, plutôt que...
Général, allez.
Ouais. Alors cette exposition, donc c'est un peu une découverte pour ceux qui pensent que Corot est un paysagiste.
Et seulement un paysagiste,
puisqu'en fait cette production en fait était une production un peu cachée, des tableaux qu'il offrait, qu'il gardait. Donc en fait on découvre notre Corot. Alors moi j'ai une grande admiration pour le Corot paysagiste parce que c'est toujours, je dirais qu'il est entre un Claude Lorrain et un Poussin pour moi. Et il est aussi, encore et toujours, même avec des portraits. Donc on rentre dans une exposition qui nous accueille des tout petits formats, tout petit, avec donc des portraits, puisqu'il n'y a que des portraits. Et on va aller vers une exposition dont le format va s'agrandir, on va dire. Le format, il faut dire que dans les années 1870, puisque le dernier tableau de 1874, c'est la Dame en bleu qu'on a sur l'affiche de l'exposition, en 1870, c'est une sorte de transformation, les tableaux vont s'agrandir. Mais je pense que le peintre Corot est trop discret pour céder à une mode. Et donc on a ces petits tableaux, comme ça, qui sont de portraits, qui sont sur des fonds monochromes ou des paysages, mais comme si on avait tiré un décor, comme si on avait tiré, vous savez, dans les photographies, on tirait des décors de paysages. Et donc, ça m'a même fait penser à Uccello, vous savez, les premiers paysages derrière les scènes, c'est comme s'il tirait un rideau, et en fait, vous n'avez pas le même rapport de profondeur entre la scène et le fond. Donc, ces personnages sont comme calés derrière une platitude. Donc il n'y a pas de profondeur du tout. Donc c'est très intriguant déjà. Et puis donc petit à petit on voit qu'il y a une typologie. Alors on va passer par beaucoup de femmes, notamment les Italiennes, les Grecques, puis y avoir une série aussi de moines, des chartreux, qui lisent, qui jouent de la viole, etc. Donc l'exposition c'est vraiment passer par des variations. Et on voit bien que, semble-t-il, après aussi ce que dit Sébastien Allard, si j'ai bien compris, il y a quelque chose du travail et d'une étude qui se fait à travers ses portraits, une recherche qui se fait. Et donc, moi, je trouve ça assez formidable, indépendamment. Je trouve que vraiment cet espace d'exposition est trop étroit. C'est vraiment. Moi, je me dis qu'on a beaucoup de chance de le voir sans les spectateurs, mais pour prendre. Bon, bref, allez, passons là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment le C'est un peintre génial. D'abord parce que c'est le peintre de la synthèse. Il est ni néoclassique, ni tout à fait moderne. C'est-à-dire que c'est celui qui est entre l'idéalisme et à la fois dans le réalisme ou en naturalisme. C'est-à-dire qu'il est idéaliste, c'est-à-dire Il ne l'est pas tout à fait parce qu'en fait il veut contrôler à l'excès. La peinture ne peut pas aller jusqu'à une symbolisation qui ferait sortir en fait le tableau de ce qu'il est. Un tableau, c'est d'abord quelque chose qui est visible, mais il peut pas être non plus tout à fait réaliste parce qu'en fait il évite aussi le vulgaire, puisque si vous êtes trop réaliste, vous pouvez faire tomber le tableau du côté du trop visible. Donc en fait il est d'un équilibre absolument fragile et je lui trouve d'une... C'est vraiment, c'est un peintre que j'aime profondément. Cette exposition me donne encore plus, je dirais, d'admiration pour lui, parce que c'est quelque chose qui me donne à la fois la sensation du travail en train de se faire, de ne jamais céder sur le travail qui est en train de se faire, et en même temps la discrétion absolue de sa peinture, parce que c'est de la peinture discrète, et en même temps absolument affirmée sur ce qu'il fait. Et donc ces typologies qu'il nous présente sont en fait des déploiements de la peinture. Et je trouve que l'exposition nous montre en fait, voilà, ses formes. Alors, il prend des modèles et comment finalement il peut abandonner quelque chose du modèle, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir une série des bacchantes, notamment le repos qui est aussi la bacchante au tambourin. Et ce tableau, c'est vraiment. Je me suis arrêtée sur cette série parce que je trouve que elles sont trop dans le paysage ou pas assez. C'est-à-dire que je n'y arrive pas à les y mettre. Et là, je me suis dit, en fait, peut-être que Corot n'a pas cessé de se poser la question, est-ce qu'un corps du 19e peut-il être dans la nature encore? Et cette réflexion, je pense qu'il ne cesse de la mettre en œuvre, y compris dans les absences de profondeur des petits tableaux qu'on a au début de l'entrée, jusqu'à la fin, où on a des séries, parce qu'il a composé à peu près 6 tableaux de femmes, d'ateliers, où sont des femmes devant des chevalets, qui regardent des tableaux, ou alors des femmes assises qui ne regardent pas le tableau, et puis qui sont prises entre ce dernier tableau de l'exposition qui est la Dame en bleu, et qui pour moi est un summum absolu, c'est comme une porte qui s'ouvre, parce que pour moi c'est comme une sorte de... comme si le dénouement de la peinture de Corot s'y jouait. Mais alors peut-être je vous donnerai cette histoire de dénouement.
Dans un instant. Voilà, encore une belle envolée. Annaëlle Pigeard sur Corot.
C'est effectivement une exposition qui déplie ce fil de variation du portrait, du modèle, de la figure dans l'œuvre de Corot. Et qui a cet intérêt de nous faire vraiment rentrer dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on voit la manière dont Corot travaille, dont Corot d'abord s'intéresse à ses proches par cette série de petits portraits. Il peint ses proches, ce petit portrait où on voit sa mère qui est un peu maladroite, où on voit cette série de petits enfants. Il utilise ensuite des modèles. Il y a Emma Daubigny notamment qu'il partage avec Puvis de Chavannes ou avec Degas par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il costume en fait ces modèles. Ces modèles ont toujours... En fait, il fait venir des costumes d'Italie ou bien de Grèce, le costume d'Italienne, le costume de la jeune grecque. Il les affuble d'un accessoire, un luth par exemple, ou bien il y a des femmes à la fontaine. Ensuite, il y a effectivement cet agrandissement des formats où on se rapproche de plus en plus du modèle. Et puis on arrive à la fin, dans la série, après le passage des nus, dans la série des ateliers, où il y a une situation qui est totalement irréaliste, puisque dans cette extraordinaire Dame en bleu, on est dans l'atelier, on voit dans l'atelier au mur un certain nombre de portraits, dont par exemple la belle Gasconne, qui est au début de l'exposition, que Corot a toujours gardé, puisque ses portraits, enfin ses tableaux de figure, il les a souvent gardés avec lui, dans l'atelier, comme vous le disiez. Et donc la Dame en bleu porte, cette fois-ci, une robe qui est bien une robe contemporaine, pour la première fois, mais qui est une robe d'après-midi, dont il a enlevé les manches, c'est-à-dire une robe à transformation, ce qui en fait ne se faisait pas du tout. Et encore moins, c'était encore moins une tenue adaptée à une scène d'atelier. Donc en fait, pendant toute son œuvre, Corot, avec la question de la figure, s'emploie à brouiller les catégories, et finalement, il nous renvoie par là à la question même de la peinture dans l'atelier. Et finalement, c'est ça sa modernité, c'est de nous parler de la peinture elle-même. Et je voulais ajouter aussi que cette question de la peinture a été peu relativement travaillée dans l'œuvre de Corot, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une exposition en 1909, à Paris, qu'ont vu Braque et Picasso, et de Rhin, et qui introduit peut-être Corot dans ce champ de la modernité. Et quand on regarde des tableaux comme la blonde Gasconne, pas la belle Gasconne, qui justement est représentée dans La Dame en bleu, c'est difficile de ne pas penser à des tableaux de Picasso des années 30, aux grandes baigneuses. On ne sait pas si c'est une chose avérée, mais en tout cas c'est assez inspirant.
Florian Guettet, à présent, sur Corot, au musée Marmottan-Monet.
Pour ajouter un mot sur ce que vient de dire Anaël, Braque s'est librement inspiré des joueuses à la mandoline pour sa série des joueuses elles-mêmes. Donc oui, il y a... Alors moi, je suis pas sûr que ce soit l'artiste de la synthèse. En tout cas, je l'ai pas vu comme ça dans cette exposition, parce que effectivement, il est entre les deux. Alors soit il est et idéaliste, néo-classique et moderne, soit il est ni l'un ni l'autre. Et j'ai été très surpris en fait de voir effectivement presque la faiblesse du paysage en fait dans ces formes de figures. C'est-à-dire qu'il y a quand même une option de lecture qu'on voit sur les cartels ou dans le catalogue notamment, où on voudrait nous faire croire à une figure paysage, et j'ai eu vraiment du mal à la retrouver. Alors peut-être effectivement ponctuellement sur notamment la toilette, qui est un des tableaux qui va vraiment faire scandale au salon 1859, où effectivement là il y a une sorte de fusion un peu plus franche, mais sinon la plupart du temps il y a une sorte de décalage comme ça entre la figure et le paysage qui moi me parut, parce qu'effectivement je le connaissais comme paysagiste comme beaucoup de gens. Le premier tableau en fait qu'on voit juste avant les petits portraits, c'est un paysan dans le jardin de la Villa d'Este, et donc on voudrait nous faire croire qu'il est fondu dans ce paysage, alors que précisément il se tient sur une barrière, il est comme au bord du cadre, et que finalement il est dans une forme d'instabilité. On ne sait pas bien s'il est assis ou si... Et il n'arrive pas à s'intégrer précisément dans ce cadre-là, quoi. Et ça va continuer en fait tout le temps. Alors c'est vrai que dans les portraits vraiment, donc qui sont vraiment les premières périodes des années 20-30, il y a très peu de fonds. Ensuite, quand les fonds arrivent, les fonds ils paraissent un petit peu plus artificiels. Alors certes, il y a quelques rappels chromatiques, mais la pose des modèles est vraiment une pose d'atelier, quoi. Donc on voit l'atelier, on sent l'atelier. D'ailleurs, l'exposition se termine par une série sur les ateliers, dont la Dame en bleu. Quand on a, par exemple, donc quand il passe des portraits aux figures et qu'il va créer des types comme ça, donc avec des références mythologiques, et donc il va placer ses nus par exemple dans des forêts, dans des paysages plus campagnards, plus ruraux, etc. Ben là aussi, moi je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'artifice assez flagrant à vouloir les poser là. Donc là, je rejoins évidemment ce qu'a dit Corinne. Je pense qu'il se pose la question de savoir ce que ces femmes ont à faire dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Mais il le fait quand même, et on le voit aussi dans la série des moines. Alors la série des moines qui contredit presque tous les types féminins, puisque là on a des moines qui sont très concentrés, absorbés, presque en méditation dans leurs activités, donc la lecture, la musique, etc. Et à ce moment-là, le paysage, il y a une forme d'isolement en fait par rapport à ce paysage qui devient totalement secondaire, qui est souvent mal fait, qui est souvent dans l'infini, enfin voilà, dans l'inachevé, pardon. Comme si ça passait au second plan, ce qui est assez étonnant en fait dans moi la lecture ou ce que je croyais savoir de Corot.
Et du coup ça a gêné votre vision de ces œuvres-là, Florian Guettet, vous avez coup moins goûté ces portraits parce que il y avait ce hiatus entre portraits et paysages.
J'ai l'impression en fait que effectivement, alors, il faut replacer aussi, si c'était caché, c'est beaucoup parce que ça servit à des esquisses, c'est-à-dire qu'il commence à faire des portraits en fait quand il part à Rome dans les premiers voyages, il est tout jeune, il a 26, 28, et donc il part à Rome, il commence à esquisser, et puis en fait il fait pas les choses sur place, il les fait en fait de souvenirs, quoi. Et sa mémoire est forcément défaillante, donc quand il revient à Paris, il commence Et moi, ça m'a donné vraiment l'impression d'un artifice qu'il essayait. Il y a quand même des maladresses. Vous avez parlé de sa mère. Enfin, sa mère est grotesque. Elle est presque monstrueuse, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a...
Corinne Rondeau, pas d'accord?
Non, mais la question n'est pas de savoir si c'est grotesque ou pas. On est d'accord, il les garde, donc il peut bien peindre ce qu'il veut dans son atelier. Exactement. Donc on n'est pas là pour dire, attends, ah ben là, gros, vraiment, tu peins ta mère n'importe comment.
On en fait donc, une exposition.
Alors, évidemment,
soit on le replace dans ce truc d'études, et alors on dit que c'est des études, etc. Mais c'est pas présenté comme ça, quoi.
Alors, je pense que c'est toujours intéressant quand même de manifester une partie de ce qui est caché d'une œuvre à une époque pour voir justement l'amplitude du travail et par où ça passe. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, Marietta, ce nu absolument extraordinaire qui est d'une intimité folle. Il écrit son nom. Marietta, c'est écrit à la mine de plomb avec un tiret à Rome qui, pour moi, alors apparemment, ça serait issu de Ingres, l'Odalisque. Alors, j'aimerais bien savoir comment. Par contre, il a retourné la Vénus d'Urbino. Ça, c'est indéniable. Donc, bon, je laisse aux historiens faire leur job. Mais moi, je trouve qu'au contraire, la vraie question de se poser la question, qu'est-ce qui fait de ce paysage qui est la question de la nature, finalement, ou du naturalisme. Et avec ses portraits, je veux dire, il est à l'étude de se dire à quel endroit ces choses se jouent là et s'articulent-elles. Alors, moi, c'est ça qui me passionne, parce que je trouve que la Dame au Bleu est le point de réussite. C'est-à-dire qu'on comprend très bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand même, personne ne l'a dit, je suis un peu étonnée, tous les modèles, quasiment tous, sont pensifs. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire une action. Sa peinture, celle qui nous est proposée, ce sont des gens en train d'être suspendus. Je veux dire, s'ils font quelque chose, c'est de la lecture, autrement dit, ils sont intériorisés, ou bien de la musique, autrement dit, c'est quand même une activité de contemplation, aussi d'une composition. Enfin, on n'est pas en train de s'amuser, il n'y a pas de ronde autour. Hein. Une paysanne, une moissonneuse, elle a la main au menton avec la faucille à la main, pendant qu'il y a deux petits personnages qui sont eux en train. Donc ce sont des modèles pensifs. Et en fait, cette peinture est une peinture pour nous poser la question du regard, en fait. Qu'est-ce que je vois sur un tableau, justement, quand quelque chose me regarde? Parce qu'il y a beaucoup de tableaux qui nous regardent, et en même temps, on a des modèles qui sont hors champ. Et la Dame en Bleu est un hors-champ, c'est-à-dire qu'elle est prise entre deux tableaux qui sont deux tableaux de paysage, l'un est encadré, l'autre pas. Et on arrive là avec ce grand format, cette grande robe dont il nous a parlé, il nous a montré des paysages de l'Italie, de la Grèce. En fait, il a fait venir des paysages qui sont des habits. Et il est arrivé à la fin à donner le paysage de la modernité qui est une robe parisienne. Et une robe parisienne dans un atelier. Donc en fait, il est en train de peindre, il est en train de faire venir la peinture dans son atelier. Donc c'est plus la question du modèle, c'est plus la question de la nature. À la fin, quand on arrive, cette question d'être hors champ, ce modèle pensif, ce bleu est une porte. Et même s'il nous fait penser à la muse de Virgile qui a au début de l'exposition, dans ce grand vêtement en bleu, qui est tout à fait autre chose, elle est dans l'écart, parce que la peinture, c'est ce qu'on regarde, et aussi par quoi on regarde autre chose. Et c'est ça, en fait, regarder, c'est ce qui est toujours hors du tableau, aussi. Et c'est ça le travail de l'atelier, être dedans et dehors à la fois.
Anaël.
Et ce que montrent aussi ces tableaux inachevés, c'est un questionnement sur ce que c'est que l'achèvement de la peinture. Et c'est
inachevé,
ça aussi.
C'est arrêté pour relancer.
C'est ça. Mais par exemple, la Sibylle du Met qui fait penser au tableau de Léonard, dont le bras comme ça a l'air d'être complètement inachevé, a en même temps une sorte de complétude qui est extrêmement frappante.
Il faut voir l'ombre.
Et finalement,
au-dessus de la tête,
on a l'impression
admirable.
Absolument. Et si on a l'impression finalement que pendant toute l'exposition, pendant toute sa vie, Corot tourne autour de ce modèle, de ces modèles qu'il montre en train de poser, et qu'en nous faisant entrer dans l'atelier, c'est finalement lui-même en train de peindre, le peintre en train de peindre, qu'il nous montre dans une sorte d'autoportrait détourné.
Corinne Rondeau,
C'est une peinture de passage. Cette expo, c'est une peinture de passage. C'est comment on passe du paysage à la femme, de la femme à la peinture.
Et Florian Guettet, pour finir.
Paysage, modèle, femme,
plutôt
peinture.
Plutôt la figure atelier plutôt que la figure paysage, finalement, parce que moi, cette option de lecture-là ne m'a toujours pas convaincu.
Corot, le peintre et ses modèles, c'est au musée Marmottan Monet jusqu'au 8 juillet, le temps d'y aller, d'y retourner plusieurs fois. Catalogue édité pour l'occasion, coédité par le musée Marmottan Monet et les éditions Azan.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le temps file ce soir. Le troisième sujet de cette dispute art plastique, c'est l'exposition que la Maison des Arts de Malakoff consacre à Cécile Beau, sous le titre « La région vaporeuse ». Les Malakoffiotes, l'artiste qui est passé par les Beaux-Arts de Marseille et par le Frénois notamment, qui avait reçu en 2012 le prix « Découverte des Amis du Palais de Tokyo ». Thank you. entrons dans la maison des arts de Malakoff en suivant Anaël Pigeat. Vous vous en doutiez, hein, forcément, c'est chacun son tour.
On laissait Coro avec ses figures. Alors,
et avec Corinne Rondeau.
Et avec Corinne Rondeau.
Qui dort dans le musée Marmottan Modenay en ce moment.
J'aimerais bien.
Oui, j'imagine.
Cécile Beau, c'est vraiment dans un paysage qu'elle nous emmène à la Maison des Arts de Malakoff. Dans l'exposition, elle met en scène des bribes d'éléments naturels. On a l'impression un peu d'être au muséum. Et ce qui est le plus réussi dans cette exposition, je trouve, c'est le rapport à l'espace. En fait, dans la Maison des Arts, qui est cette jolie maison, donc, petit hôtel dans Malakoff, il y a deux étages et elle nous propose vraiment une exposition en deux mondes superposés. Elle a fait un premier geste qui consistait à détourner l'entrée, comme l'avait fait en son temps, il y a quelques années, Renaud-Auguste Dormeuil, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer par la grande façade de la Maison des Arts, on rentre par le petit côté, ce qui donne une perception de l'espace tout à fait différente. Il y a aussi dans l'exposition deux passages entre ces deux mondes à travers deux œuvres qui communiquent entre le rez-de-chaussée et le premier étage. J'y reviendrai plus tard. Et puis, toute l'exposition est baignée dans une lumière assez sombre, enfin dans une atmosphère assez sombre, qui harmonise un peu toutes les pièces dans ce paysage qui donne l'impression d'être éventuellement dans une grotte ou alors dans une sorte de monde spatial, dans une sorte de galaxie. L'exposition a aussi une dimension sonore, et cette dimension sonore conduit à une réflexion sur le temps. Une exposition qui se trouve dans un espace entre passé et présent, entre le haut et le bas, entre le règne minéral et le règne végétal, entre le temps et l'espace. Il y a quelque chose aussi de généreux dans l'exposition de Cécile Beau, qui fait qu'elle a collaboré régulièrement avec d'autres artistes, avec un compositeur, Nicolas Mongermand, et avec une autre artiste, Anna Prune, pour une grande sculpture qui occupe tout le rez-de-chaussée de l'exposition. On a l'impression de se promener dans un paysage de science-fiction pauvre, j'utilise ces termes. Il y a quelque chose de familier dans ce paysage qui fait basculer de temps en temps dans l'étrange. On a l'impression d'être à la fois dans un monde archéologique, dans un monde astronomique. L'exposition évoque les dioramas. Il y a des notions d'ésotérisme. Il y a aussi une question d'effervescence qui se manifeste dans certaines sculptures. Et je crois que maintenant, il faut parler des œuvres.
Oui, et d'ailleurs, c'est Florian Guettet qui va commencer par parler des œuvres avant qu'on revienne vers vous, Anaël, si le temps nous le permet.
Bah, je crois que moi, j'ai un comparatif, c'est Hicham Errada, dont tu as parlé il y a peu. Et à côté, je trouve que Cécile Beau en fait beaucoup moins. Elle est beaucoup plus dans la mesure par rapport à cette fascination pour l'élément naturel. Et je trouve que ça lui va mieux. En tout cas, moi, ça me convient plus. Il y a une forme comme ça de neutralité, un peu sec, un peu austère parfois, mais on n'est pas dans un univers merveilleux et fantastique. Alors c'est pourtant, moi, je trouve qu'elle ce travail est intéressant parce que il vient réagencer en fait notre représentation des ordres mondiaux. C'est-à-dire que l'air va devenir lourd, l'eau va diffuser le son des planètes, le céleste va se fossiliser, l'inerte va devenir vivant, etc. Et ça, on le voit dès le début en fait avec les premières œuvres qui nous sont présentées, qui sont des cyanotypes qui décrivent les thèmes astraux d'impact de météorites sur Terre. Et le cyanotype, c'est un procédé qui vient faire intervenir les rayons UV, donc le soleil, mais pour nous décrire cette fois un ciel étoilé. Donc déjà, il y a cette forme de renversement et on devra s'habituer à cette forme de renversement puisque toutes les œuvres vont plus ou moins en procéder. Par exemple, vous avez parlé effectivement de cette œuvre qui court sur les deux étages et qui est donc centrale dans l'exposition, qui est en fait une souche d'arbres avec des ramifications qui sont comme des pattes arachnéennes, hein, d'araignées. Donc la souche est au premier étage et les pattes pendent en fait dans le rez-de-chaussée. Et il y a comme ça quelque chose de l'ordre du vol en fait de l'araignée, comme si la souche n'était pas enracinée dans le sol mais enracinée dans les airs. Et d'ailleurs, elle convoque Emmanuel Kocha qui dit ça dans son livre La vie des plantes, où il dit finalement les plantes elles sont pas plantées dans le sol, elles sont plantées dans les airs. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant. Effectivement, il y a deux motifs qui se distinguent, c'est le céleste et le brumeux, et je trouve que c'est assez juste pour décrire sa poésie à elle, qui est une forme de poésie brumeuse, incertaine, mais pas fumeuse. Voilà. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Toujours faire le lien entre le céleste et le marin, entre l'eau et l'air, notamment dans des formes d'expérimentation qui sont données dans des centres dans les spécimens, par exemple, qui sont dans des boîtes aquariums, hein, des cubes en fait transparents, dans lesquels il y a un liquide et on plonge comme ça des végétaux ou des pierres, et on leur fait écouter en fait le son des planètes, et ce son est distordu en fait par un mécanisme, et ça donne comme ça un univers clos sur lui-même, complètement impénétrable, presque opaque, et qui demande de nous, en spectateur, de porter notre attention pour savoir ce qui exactement s'y passe. Et on pourrait passer très facilement à côté de ces œuvres, mais quand on y fait attention, en fait, il y a toujours une forme de d'énigme qui vient susciter notre attention.
Attention sollicitée pour vous, Corinne Rando.
Oui, d'un point de vue sonore, beaucoup. Et je pense qu'il vaut mieux venir la voir en fin de journée quand ça commence à s'assombrir, parce que bon, là, c'est translucide, les fenêtres ont été un peu obturées, mais il y a encore de la luminosité. Et je pense que ça ajouterait à une tension en fait sonore qui est très 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 réussie, je trouve, parce que indépendamment de ces deux pièces, la suovale avec la souche qui ressemble à cette araignée qui est suspendue entre les deux, puisqu'en fait ce qui compte, c'est pas le premier, deuxième étage, c'est l'interface. Ouais. Puisqu'en fait, cette question de l'interface, c'est aussi la question d'une autre œuvre qui est érosion, qui serait l'idée du trou de verre, c'est-à-dire on passe d'un espace à un autre espace, ou qu'il y aurait d'autres mondes autour de nous, peu importe. Mais elle n'est pas du tout, je dirais, naïve sur les modèles qu'elle emploie, parce que ces modèles, elle sait qu'elle les travaille, elle leur donne non, mais comme elle recherche des phénomènes physiques, mais qui ne sont pas des phénomènes physiques scientifiques, elle sait qu'elle joue avec un effet de la physique elle-même malgré tout. C'est-à-dire, elle sait très bien, par exemple, qu'il n'y a pas de son dans l'atmosphère, mais elle va quand même trouver un mécanisme qui la conduirait à inventer le son du cosmos. Mais tous ces sons, notamment cette pierre, qui est une pierre avec de la mousse dessus, hein, qui s'appelle Aoriste. Et cette pierre, en fait, elle est creusée et il y a un son qui vient. Et elle a un son qui est très présent, comme dans Érosion, où il y a un souffle qui passe et qui revient à renvoyer à des espaces. L'air passerait dans des espaces de grottes avec des boyaux plus ou moins larges, etc. Et donc, en fait, on est pris dans ce mouvement sonore, mais à un point que vous vous arrêtez de penser. Et comme ces œuvres ne cherchent pas à être des objets de lisibilité, d'un coup tout se suspend et ça fonctionne dans une volonté de produire un évitement de toute origine. C'est-à-dire, je me sers de ça pour faire ça et ça, et en même temps, il n'y a pas de point d'origine qui rendrait l'objectivation de tout ça. Autrement dit, elle arrive à créer un environnement dans lequel, au bout d'un certain temps, même si vous avez sur un premier temps, j'ai eu un retrait en me disant, mais en fait, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée par l'expo, par l'environnement sonore qui a été créé et en fait, qui vous prend du haut en bas. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, vous êtes à l'interface. Vous êtes aux deux à la fois. Et j'ai beaucoup aimé aussi deux plaques de béton sur lesquelles elle a fait des impressions d'images de Mars. Et c'est dans des coins où il y a de la pénombre. Et en fait, ça vous demande de rester là, à pas savoir ce que c'est, et en même temps à vouloir savoir, en fait à vouloir voir, et en fait vous vous dites, je verrai pas. Par contre, ce qu'il y a, c'est une volonté de ramener du vivant en permanence, que ce soit minéral, organique ou végétal, et il faut savoir qu'une partie de la souche Siova bouge. Et la pierre, tous les soirs, on la sort, parce que la mousse, il faut qu'elle vive. Donc tous les soirs, on la met dehors.
C'est du vivant. Annaëlle Pija ?
Peut-être parce que la pierre, le son qu'elle dégage, c'est un mélange du bruit d'un séisme et du ronronnement d'une panthère. Il y a quelque chose dans le travail de Cécile Beau qui relève un peu de la physique amusante. On a l'impression qu'il y a une sorte de malice dans sa fascination pour la science. Et je trouve que l'exposition, parallèlement à la grande maîtrise qu'elle a de l'espace, de l'architecture des lieux et de la circulation des visiteurs, dégage aussi une sorte de fragilité, une fragilité qui se manifeste notamment dans le fait, et fragilité assumée, qui se manifeste dans le fait qu'elle montre par exemple une œuvre qui est un prototype, qui est chambre résiduelle, qui est une sorte de cube rempli d'un liquide, dans lequel tombe à intervalles réguliers un cachet d'aspirine qui a pour but de retrouver le son du Big Bang. Physique amusante.
Oui, puis c'est peut-être ça le son du Big Bang. allez savoir. Cécile Beau, la région vaporeuse, vous donnez très envie d'y aller. C'est jusqu'au 11 mars à la Maison des Arts de Malakoff. Je crois pas qu'il y ait de publication, mais par contre, il y a encore des rencontres prévues, des performances qui sont prévues, parce que comme vous le disiez tout à l'heure,
il y a beaucoup de collaboration,
pas mal de gens. Donc le prochain, le 11 mars, 17h, récit performance de Emma Loriot et Julien Claus. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute et c'est Camille André qui nous a rejoint pour nous rappeler tout d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
Lors de quel événement historique fut édifié le palais de Tokyo ? Et la réponse était l'exposition internationale de 1937.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour le film Wajib, l'invitation au mariage, un film d'Anne-Marie Jassir qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question, Camille ?
Dans le film Wajib, l'invitation au mariage, quelle est la particularité des acteurs endossant les rôles du père et du fils ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel on peut réécouter nos émissions, mais également s'abonner au podcast de la dispute. On prépare ses commentaires aussi pour l'émission de demain, à poster sur la page Facebook La Dispute FC. Là, j'ai pas eu le temps. Vous étiez si inspirés tous trois d'en donner davantage tout à l'heure, mais vous pouvez le faire et aussi attendre le direct pour commenter directement sur Twitter en suivant le fil Dispute FC. Demain, à 19h, une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Laurent Nunez, Grégoire Leménager et Florent Georgesco. À notre sommaire, l'affaire Meyerling de Bernard Kirchner chez Rivage, Phénomène naturel de Jonathan Franzen à l'Olivier et Sainte-Croix les vaches de Vincent Ravalec chez Fayard.
France Culture, l'esprit d'ouverture.